Voici une étymologie. Je tire cela d'un dictionnaire, une grammaticalisation, vous rendez compte, de l'impératif, bien sûr, voici, vois ceci. Et chaque fois que la parole de Dieu dit voici, il nous faut être attentifs parce que le Seigneur nous appelle à voir, bien sûr, avec notre cœur, pas avec notre vue, bien sûr, hein, avec notre cœur, vois ceci, vois ce que j'ai à te dire de particulier tiré de la parole de Dieu. Alors, ce voici indique la proximité par opposition à voilà qui sert à désigner une personne ou une chose plus éloignée. Alors, voici l'homme et voilà, par exemple, la chose. On voit que voilà est plus loin. Voici, il y a une proximité. Il y a quelque chose qui doit m'indiquer quelque chose vraiment de précis de la part du Seigneur dans sa parole. Cette préposition s'emploie aussi pour exprimer un état actuel ou une action qui a lieu dans un moment même. Voici, c'est attention, il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Deuxième signification. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop technique ce matin et grammatical, mais ça vaut quand même la peine de remettre dans le contexte pourquoi est-ce que la parole de Dieu est indiquée ou indique ces choses tellement importantes. Par exemple aussi, cette préposition s'emploie lorsqu'on va immédiatement énoncer quelque chose, dire ou expliquer ou détailler quelque chose par opposition à voilà, qui désigne plutôt ce qu'on vient de dire. Par exemple, voici mon épouse et voilà le dessert qu'elle a déposé sur la table. Voyez, le voici, c'est vraiment quelque chose qui est direct. Le voilà, ça s'est passé. Vous voyez un petit peu la nuance ? Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On va essayer de voir la nuance de la parole de Dieu après, si vous êtes d'accord. Hein. Donc, voici, c'est vraiment quelque chose qui appelle au cœur de Dieu et qui appelle à mon cœur. Et je dis, voici pour toi, aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu vois ceci dans ta vie ? Est-ce que tu vois que les circonstances t'amènent aujourd'hui à venir aux pieds du Seigneur pour l'adorer ? Voici le jour du salut pour toi. Voici la délivrance aujourd'hui parce que l'Éternel qui règne est pleinement capable, et ça j'aime le te dire, de briser les chaînes qu'il y a sur ta vie. Amen. Voici le jour du salut. Amen. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Dieu est pleinement capable. Est-ce que tu veux le laisser pleinement capable de vivre cette vie extraordinaire qu'il a pour toi, avec toi ? Amen. Ouvrons la parole de Dieu maintenant pour passer, si vous voulez, aux choses pratiques dans l'Évangile selon Jean au premier chapitre. Ce qui est extraordinaire, je réalisais encore dernièrement, c'est que le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, tout est posé. C'est posé, c'est établi, c'est indiscutable, il n'y a rien à dire, la parole de Dieu le dit d'une manière avec une autorité absolument extraordinaire. Premièrement, bien sûr, nous connaissons le prologue de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, bien sûr, le logos, la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il faut que je baisse un petit peu le rythme, excusez-moi, il y a une traduction ce matin, je m'emballe. Jean 1, verset 4. Dans le Logos était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu reçois la vie de Jésus-Christ, et en même temps tu reçois la lumière de Christ dans ton cœur. Amen. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, c'est Jean le Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Au travers du témoignage de Jean, qui est le précurseur, que tous croient que Christ est le Logos, que Christ a planté sa tente parmi nous, que Christ a tabernaclé parmi nous, que Christ est venu comme le sauveur du monde. Amen. Et regardez à partir du verset 19 de l'Évangile selon Jean, toujours ce premier chapitre après cette petite introduction. Regardez au verset 19. Voici le témoignage, on parle de Jean le Baptiste. Le témoignage, ça vient du terme martyr. Jean a été ce témoignage comme quoi qu'il est le précurseur, il prépare le chemin de celui qui devait venir, bien entendu, de Christ. Et je pense que lorsque ces paroles, bien sûr, sont retracées dans la parole de Dieu, quand on parle du « voici », c'est un premier « voici ». Quelque chose se passe dans l'histoire de Dieu et dans l'histoire des hommes. Voici, regarde, remarque, sois attentif, considère, sois-en sûr, c'est ce que ça veut dire en fait. Considère ceci, sois-en sûr, prends connaissance de ce témoignage de Jean, de ce premier témoignage qu'a donné le terme de martyr. Et bien sûr que Jean le Baptiste, lorsqu'il témoigne de la venue de Christ, plus tard, lorsqu'il a été exécuté par Hérode, il ne savait pas qu'il allait être ce martyr vivant, ce témoin déjà de sa vie. Amen. Mais il y a cette annonce déjà dans l'Évangile, comme quoi que Jean a ce témoignage lorsque les Juifs, je continue, verset 19, envoyaient de Jérusalem des prêtres, des lévites, pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Et voici Jean le Baptiste, ce qu'il répond au verset 20, « Il confessa, sans le nier, il confessa deux fois, hein, qu'il est dit là, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et lui demandèrent « Quoi donc es-tu, Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » C'est étonnant de voir, je pense que là, Jean le Baptiste avait un problème d'identité. Parce que plus loin, Christ annonce qu'il est effectivement cet Élie qui devait venir, qui devait bien sûr ramener le cœur des pères aux enfants, et de ramener le cœur des enfants au Père. Bien sûr, Christ l'a dit, c'est lui l'Élie. C'est étonnant de savoir et de voir que Jean le Baptiste n'avait pas vraiment reconnu cela. Je ne sais pas s'il y a eu un problème dans sa vie, il faudrait peut-être un petit peu creuser à ce niveau-là, mais il dit textuellement, non, je ne le suis pas, c'est étonnant. Voulait-il vraiment laisser toute la place à Christ? Peut-être. C'est bien lui qui a dit aussi plus loin, il a dit que je diminue afin qu'il croisse. Amen. Et peut-être qu'il est temps de diminuer dans nos vies afin de laisser Christ croître. Et peut-être que tu ne sais pas trop qui tu es, mais lorsque tu ne sais pas qui tu es, eh bien Christ, en le laissant croître dans ta vie, peut pleinement te donner cette autorité, peut pleinement te donner cette dignité d'être que tu es en lui. Amen. Parce qu'il veut pleinement que tu naisses de nouveau, que tu naisses à la vie et que tu viennes dans cette connaissance de Christ qui est là pour établir les choses ta vie. Alléluia. Amen. Verset 22. « Et lui dire alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » Et il dit « Je suis », et il se contente de cela. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Et ça, c'est une parole que nous retrouvons, bien entendu, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 3. Est-ce que Jean connaît qu'il cite la parole de Dieu, là? Mais il se contente de dire « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Et il est là pour que Christ vienne justement aussi aplanir ton cœur, aplanir le chemin de ta vie. Christ est celui qui donne un sens à ta vie. Amen. Il a été annoncé, bien entendu, déjà bien, bien avant dans le prophète Ésaïe au chapitre 40. Comme bien sûr a dit le prophète Ésaïe. Verset 24, « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Il laisse toute la place à celui qui va venir. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptise. » Baptisait d'où Jean le Baptiste. Regardez verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, il y a ce deuxième voici, considérez, Prenez conscience de cela. Connaissez, c'est ce que ça veut dire. Voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu ne peut pas faire autrement que d'ôter le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi et moi je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Et voici ensuite le verset 32 qui est repris, et on va le reprendre dans Matthieu. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissaient pas. Pourtant, ils étaient cousins. C'est étonnant. Je ne le connaissais pas. Souvenez de l'histoire d'Élisabeth, de Marie, et même Marie qui va séjourner même 3 mois chez Élisabeth, alors que Marie va vers Élisabeth, il y a l'enfant qui tressaille dans son sein, il y a quelque chose qui se passe. C'est étonnant que Jean le Baptiste ne le connaisse pas vraiment. Était-ce peut-être le fait qu'il ne connaissait pas dans la mission de ce Christ, de ce Messie, peut-être? C'est une question, cela. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Amen. C'est Jésus qui baptise dans la puissance de l'Esprit. Amen. Est-ce que tu as reçu le baptême dans l'Esprit? Si c'est pas le cas, réclame le baptême dans l'Esprit. Oh, pas pour l'utiliser, pour être glorieux devant le Seigneur, ça sert à rien, non, non. Mais pour être consolé, pour être conseillé, pour agir dans la puissance de Dieu, pour agir dans la grâce du Seigneur, parce qu'on a besoin du baptême dans l'Esprit. Qui d'entre nous va se priver du baptême dans l'Esprit? Oh, quel scandale! Quel scandale! Seigneur, donne-nous la puissance de l'Esprit. Donne-nous d'être baptisés de l'Esprit, celui dans lequel il n'y a pas de fraude. Oh, alléluia! L'Esprit qui descend et qui demeure, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte pleinement ton péché. Voici l'agneau de Dieu qui est capable de briser le péché dans ta vie. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Considère, ose considérer, ose reconnaître qu'il est l'agneau de Dieu et qu'il est pleinement capable d'ôter ton péché. Amen. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. C'est l'évangile. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Amen. Applaudissons le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde et qui fait grâce. Alléluia. Ce qui est étonnant de voir aussi, c'est que dans ce verset 19, dans le terme de témoignage de Jean, je ne vais pas être trop technique ce matin, passez-moi la technique, mais quand même, c'est un temps qui est imparfait. Voici le témoignage. Voici ce témoignage qui est arrivé, dans ce voici, ce témoignage est arrivé à un point nommé. Et ce qui est extraordinaire de voir, c'est que ce témoignage continue par ce temps du parfait dans le présent. Amen. Et le Seigneur te demande aujourd'hui de reconnaître comme Jean le Baptiste ce témoignage de Christ qui est encore vivant et qui est ressuscité. La preuve, nous venons de passer Pâques et venons de célébrer la Pâque, célébrer la résurrection de Christ. Et dans ce témoignage, c'est quelque chose qui persiste et qui dure. Et je signe pour ce qui dure dans le Seigneur. Amen. Je signe pour ce qui dure dans le Seigneur. Je signe pour cette vie en abondance. Je signe pour la résurrection. Amen. Parce que le Seigneur te demande de prendre les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je trouve absolument extraordinaire ce petit détail du temps du parfait qui est un événement qui a commencé à un moment donné, un point nommé, et qui continue même dans le présent et jusque dans l'éternité. N'allons pas nous voir, revoir cet agneau parfait, cet agneau sans tache, bien sûr, aussi le lion de Juda, mais en même temps cet agneau sans tache, dans la gloire, c'est un parfait, les choses sont parfaites, et il n'y a rien à rajouter. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13, dans la continuité de ce terme de « voici » au chapitre 3, verset 13. Il y a aussi, bien sûr, la prédication de Jean le Baptiste, là. Il y a de nouveau ce que la parole de Dieu, bien sûr, parle de ce baptême de repentance. Et bien sûr, ce baptême de repentance annonçait celui qui était pleinement capable de pouvoir pardonner. Si on en reste au baptême de Jean le Baptiste, alors c'est bien de se repentir, ça c'est déjà une bonne chose, hein. Mais une fois que je me suis repenti, qu'est-ce que je vais faire? Il faut une solution quand même à mon péché, amen. Mais la solution, ben, c'est Jésus. C'est Jésus qui était cet agneau qui a été immolé, qui a versé son sang à la croix, amen. Donc la repentance, c'est bien. Mais la repentance doit m'amener beaucoup plus loin. Elle m'amène à la connaissance de Jésus-Christ qui a complètement lavé mon péché parce qu'il est l'agneau de Dieu sans tache, amen, qui a versé son sang à la croix, alléluia. Et c'est lui qui est pleinement capable d'ôter ce péché de ta vie, amen. Tu dois le recevoir et nous allons le célébrer tout à l'heure, bien sûr, par la Sainte Seine. Verset 13, baptême de Jésus-Christ. Intéressant. Pour les baptisés, nous allons voir ces choses et je vous donne encore rendez-vous aux prochaines, permettez la pub là ce matin, aux prochaines formations de baptême. Elles ont déjà commencé, tu n'es pas en retard. Si ce matin tu es convaincu de péché, écoute-moi bien, si ce matin tu as besoin du Sauveur, parce que moi j'en suis convaincu ce matin, il y en a plusieurs. Le Seigneur est en train de toucher ta vie ce matin. Voici, tu prends conscience que tu as besoin de ce Sauveur parce que tu es perdu. Tu es perdu. Et parce que nous sommes perdus, on a besoin d'un Sauveur. Amen. Si tu ne te sens pas perdu, pourquoi un Sauveur? Ça ne sert à rien. D'accord? Il faut se considérer perdu pour crier au Seigneur. Je pense que le Seigneur est en train de répondre à ta vie parce que tu es en train de crier au Seigneur ce matin. Et si tu as réalisé que Jésus est ton Sauveur et Seigneur, ce matin, tu peux t'approcher de la table. Amen. Tu lui demandes pardon au Seigneur. Parce que là, il y a les symboles de la vie de Jésus qui a été donnée, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, le corps de Jésus qui a été donné et qui représente sa vie qui a été donnée pour toi. Si ce matin, tu as besoin de venir pleinement au Seigneur, tu viendras aussi au cours de baptême vendredi prochain, d'accord? À 19h, tu viens. J'ai la conviction ce matin qu'il y en a plusieurs qui vont se donner au Seigneur. Amen. On va continuer. Verset 13 de Matthieu 3. « Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour se faire baptiser par lui. » Écoute, Jésus a pris les eaux du baptême. Pas par la repentance, non, parce qu'il n'avait pas besoin de se repentir, Jésus. Hein. L'agneau de Dieu ne se repent pas parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Mais c'est pour un exemple qu'il est venu, il se soumet. Et regarde ce qui se passe, parce qu'il accepte de passer humblement par les eaux du baptême, parce qu'il veut s'identifier aussi à ta vie, qui a besoin de passer par les eaux du baptême. Voilà que Jean, au verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi, vous voyez l'humilité de Jean qui lui baptise. Il en a baptisé probablement des milliers dans le Jourdain. Il voit l'agneau de Dieu qu'il vient annoncer justement. Il vient d'annoncer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et tu viens te faire baptiser. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je pour le faire? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans cette scène-là. Et Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Une petite pause pour les interprètes là. Il faut vraiment qu'on pèse ces choses, bien-aimés. Regardez cette scène de grâce. Oh, j'aurais voulu être là. Jean qui annonce, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà que Jésus, comme cet agneau humble, sans discuter les ordres du Père parce qu'il aime le Père, vient vers son cousin. Et il y a cette rencontre de ces deux hommes, du précurseur qui annonce la voix du Seigneur qui va être aplanie. Imagine ce rendez-vous extraordinaire. Il y a eu peut-être beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui sont passées entre eux. Est-ce que Jean l'a reconnu en tant que vraiment le Messie? Certainement, comme il le dit là. Pourquoi est-ce que je devrais te baptiser alors que c'est moi qui ai besoin de repentance? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus lui dit, mais laisse faire, parce que c'est convenable. C'est le plan de mon Père. Et dans l'humilité de ces deux hommes, dans cette circonstance absolument extraordinaire, voilà que Jean le laisse faire, Jésus rentre dans l'eau, Jésus est baptisé dans l'eau, Jésus sort de l'eau. Alors, ce n'est pas les petites gouttes hein, sur le front, hein, je vous assure. Parce que pour sortir de l'eau, il faut y entrer quand même. Hein, d'accord? Donc on est vraiment dans un baptême où on plonge. Et Jésus a soumis sa vie au Père, parce que Jésus a complètement disparu aussi sous l'eau. Je fais une petite leçon de baptême là, pour nos futurs baptisés. Prends-en déjà de la graine ce matin, toi qui vas te faire aussi baptiser. Tu vas disparaître sous l'eau et on va célébrer cette première mort. Oui, la mort la plus importante, c'est celle du baptême, parce que tu t'identifies dans la mort de Christ. Tu es enseveli avec Christ dans la mort. Tu t'identifies jusque dans la mort avec Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ aussi par les eaux du baptême? C'est ce que tu signifies, amen. Tu y laisses complètement ta vie. Et Jésus disparaît sous la surface de l'eau. Lui qui plus tard a marché sur les eaux. Mais peut-être qu'il n'aurait pas marché sur les eaux s'il n'avait pas été sous l'eau aussi un moment, parce qu'il se soumettait à la volonté de son Père. Amen. Voyez l'humilité, vous vous rendez compte. Et il a pris bien sûr à la croix le péché de l'humanité. Il a même été aux honte au péché. Il a été fait péché pour nous, vous vous rendez compte. Et cet agneau absolument extraordinaire qui disparaît pour un moment sous l'eau, dans l'humilité. Il n'est plus là. Il se soumet au Père. Quelle humilité, Seigneur Jésus, quelle humilité. Donc Jésus ressort de l'eau. Et je pense qu'il a eu besoin de Jean le Baptiste aussi pour le sortir de l'eau. Je pense qu'il a été baptisé, voilà, comme ceci, hein, je veux dire, comme on baptise. Il a complètement disparu, mais comment est-ce qu'il a pu se relever? Vous vous rendez compte, Jésus avait même besoin de Jean le Baptiste pour le sortir de l'eau. Vous vous rendez compte, l'humilité aussi. Lui, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose est faite, celui qui a créé toute chose par sa parole, a besoin de Jean le Baptiste, son cousin, pour le ramener à la surface de l'eau. C'est étonnant. C'est une bonne leçon d'humilité aussi pour moi. Et pour celles et ceux qui prendront les eaux du baptême, eh bien, on va aussi te ressortir dans l'image de ce Christ qui lui-même, grâce à la puissance de l'Esprit, est sorti du tombeau et a été ressuscité, amen, passé de la mort à la résurrection. Et lorsque tu passes justement de ce plan d'eau sous l'eau, on va te tirer hors de l'eau pour te ramener à la vie en Christ, amen. Il y a quelque chose de fort là, et Jésus a passé aussi par là. Dans l'humilité et la soumission de son Père. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce qu'il y a un « voici » après, au verset 16. Considérez. Prenez conscience de cela. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Prenez connaissance de cela. Allez vous ouvrir les yeux de votre cœur. Voici. Voyez ceci, regardez ceci, considérez si, voici. Je pense que tu vas t'en souvenir ce que c'est, voici. Hein. Il y a un instant présent là. C'est pas le voilà, ça a été fait. Non, il y a voici, quelque chose en train de se passer. En direct par l'humilité du Seigneur qui est là avec son cousin en faisant les choses comme il faut et selon la volonté de Dieu. Voici, grâce à l'humilité de Jésus, voici les cieux s'ouvrir. Alléluia. La gloire de Dieu s'est manifestée et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Alléluia. Et un deuxième voici, considérez, entendez, regardez, connaissez, voyez ceci, voici. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous avez ce terme d'agapé, d'amour, d'amour qui se donne, pas d'amour qui garde pour lui, mais d'amour qui se donne. Amen. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. C'est grâce à cela qu'il y a ce voici. C'est grâce à l'humilité de Jésus qu'il y a ce voici. C'est grâce à la persévérance de Christ de vouloir faire la volonté du Père qu'il y a ce voici et que les cieux s'ouvrent. Amen. Et grâce à ce voici dans ta vie, les cieux veulent aussi s'ouvrir sur ta vie. Amen. Parce que tu considères ces choses comme quelque chose d'important, d'essentiel dans ta vie. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, alléluia. C'est tellement fort la parole de Dieu. C'est tellement glorieux. Dans cet objet de toute mon affection, en fait, c'est un verbe. C'est un verbe. Un verbe Un petit peu de grammaire. C'est un temps dans le passé, c'est un aoriste, notre passé simple. C'est un temps qui est marqué une fois pour toutes à la voix active de l'indicatif. Bon, voilà, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est égal. Mais surtout, c'est un aoriste. Ça s'est passé. À ce moment-là, ce voici est inscrit une fois pour toutes dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de Dieu. Amen. Et ce terme, voici en qui le Fils, bien sûr, bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, en qui j'ai pris mon plaisir, en qui il y a un bon plaisir. Ce verbe va dire une belle approbation, un bon plaisir, parce que Jésus s'est soumis volontairement à la volonté du Père. Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Une fois pour toutes dans l'histoire, c'est établi, c'est indiscutable. Même les puissances ne peuvent pas revenir, parce que dans la parole de Dieu, c'est écrit au passé simple, c'est aoriste, c'est un point dans le passé, il est noté au fer rouge, tout ce que vous voulez, il est souligné, c'est indiscutable. Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé, et ce bien-aimé, c'est cet amour agapé, cet amour que Dieu partage en donnant son Fils qui lui-même va se donner à la croix. C'est extraordinaire, il y a quelque chose comme un rendez-vous de Dieu avec le Fils de Dieu qui parle déjà de la croix, ce Fils bien-aimé qui va pourtant devoir se donner pour vous à cause de votre péché. Et ça, c'est inscrit dans les cieux. Les puissances ne peuvent revenir sur ce que la parole de Dieu donne. Amen. C'est pour ça que j'en suis convaincu avec vous ce matin. Alléluia. Parce que la parole de Dieu le dit avec force, avec puissance. Et là, Dieu a déclaré que c'est son bon plaisir. C'est une belle approbation. Oui, je mets le sceau sur mon Fils, qu'il est mon Fils bien-aimé, parce qu'il m'obéit, parce qu'il fait ma volonté, et parce que je sais qu'il va me servir jusqu'à la croix déjà. Amen. Alléluia. Et là, les puissances le savaient. Oh oui, elles le savaient. C'est pourquoi Jésus a été attaqué déjà par la religiosité, par les religieux, par le manteau de la religiosité, par l'apparence, parce qu'il n'y avait pas plus vrai, alléluia, que Jésus. Il n'y avait pas plus authentique que Jésus, amen. Il n'y avait pas plus transparent que Jésus. Voici l'agneau de Dieu, qui, on le comprend mieux, bien sûr, ôte le péché du monde. Voici celui qui peut pleinement ôter le péché de ta vie. Voici celui qui peut pleinement ôter tout ce qui se passe dans ta vie. Tout ce qu'il y a de trop, peut-être tout ce qu'il n'y a pas assez, le Seigneur est là pour te consoler. Le Seigneur est là pour te secourir. Prenons dans Romains 3, au verset 23, juste pour un petit peu plus étayer ce que je dis ce matin. Dans Romains 3, chapitre 3, il y a une déclaration solennelle. Oh là là, elle ne fait pas plaisir à entendre, bien-aimé. Elle ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est la parole de Dieu qui déclare ce que nous sommes. Romains 3, 23, vous connaissez cela, bien sûr. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'état de l'humanité, d'accord ? Il n'y a rien à discuter, tu ne peux rien faire. La parole de Dieu le dit, c'est vraiment cash, c'est vraiment sec, c'est vraiment dur. La parole le dit, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et regarde le verset suivant, c'est extraordinaire. Et ils sont gratuitement justifiés, amen, par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution de ta vie ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Romains 5, 8. Romains 5, 8, je ne veux pas trop prolonger. Romains 5, 8, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La mort de Christ a été scellée pour que la résurrection puisse pleinement arriver. Alléluia. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous le redisons, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a rien à espérer du péché, parce que du péché, il y a le salaire qui est la mort. C'est scellé, c'est au moins clair. Hein ? Je sais pourquoi est-ce que je meurs en fait, c'est à cause du péché. Je suis perdu par le péché. Le péché m'entraîne dans la mort. Et si je continue de pécher, le péché va m'entraîner dans la mort. Amen. Oui. Si je continue de pécher volontairement, alors que je suis un enfant de Dieu, attention, 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 attention. Tu es en danger. Si tu dis, oh, la grâce du Seigneur, va me pardonner. Oui, oui. Attention, attention, attention. Si tu pèches et que tu te sens confortable dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Si tu pèches et qu'il y a une lutte en toi, ça c'est encore bon signe. Crois-moi. Il y a encore le Saint-Esprit qui est en train de te reprendre. D'accord ? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, et c'est ce que je veux te dire ce matin, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pèse les choses. Ici, tout passe. Ici, tout passe. Il y a la vie éternelle en Jésus qui t'attend. Et le Seigneur t'attend ce matin pour que tu puisses l'accepter comme ton véritable Sauveur et Seigneur. Et alors, tu as pleinement la vie. Amen. Marc 12, dernier passage dans les évangiles, Marc 12, au verset 28. Encore un voici dans Marc 12. Le plus grand commandement, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, je rajoute, tiens donc, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus répondit, dites-le avec moi, voici. Alors, ça discutaille autour de Jésus. On vient le trouver, on n'est pas d'accord, on veut argumenter, on veut discuter de son ministère, d'où vient l'autorité que tu as, comment ça se fait que, qu'est-ce qui se passe, tu viens nous déranger dans qui tu es. Vous vous rendez compte, le Fils de Dieu qui dérange les pharisiens, non mais c'est extraordinaire ça. Heureusement que la religion est dérangée par Jésus. Amen. Seigneur, viens déranger ma religion. Viens déranger mon manteau de religiosité, si j'en ai encore. Viens me déranger, Seigneur. Et il lui dit, voici, considère, regarde ceci, prends connaissance une fois de plus. Ça fait quand même quelques mois que je suis là avec toi, que tu me vois agir. Vous voyez, dans ce voici, il y a un rendez-vous avec un describle qui est vraiment attaché à la lettre, à la virgule, au point d'exclamation, à tout ce que tu veux, aux prépositions, aux voici, à tout ce que tu veux, s'inscribe. Jésus le prend sur son terrain. Voici, il lui fait cette petite étymologie quand même, comme moi ce matin. Non mais je charrie, mais franchement, la parole de Dieu est tellement extraordinaire. Lisez la parole de Dieu de cette manière. Le Saint-Esprit va vous la rendre vivante. J'espère qu'elle est vivante pour vous ce matin dans les cœurs. Amen. Regarde, considère le premier, en plus, voici le premier, tu te rends compte, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, alléluia. Et ensuite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et moi je rajoute, mais alors pourquoi tu ne m'aimes pas, je suis Jésus, je suis le Messie. Je suis celui qui est prêt à donner ma vie pour toi à la croix plus tard. Vous voyez, la religion, elle ferme à tout, elle scelle tout. On est propre juste, on veut discuter des opinions. Alors, vous pouvez discuter, bien sûr, il n'y a aucun souci. Hein. Mais à un moment donné, nous acceptons quand même les choses par la foi. Amen. Parce que ce voici que le Seigneur voudrait vraiment imprimer dans ton cœur aujourd'hui. Et puis, il y a un deuxième voici. Au verset 31, voici, considère, regarde, écoute, connais ceci, voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, c'est extraordinaire. Le scribe lui dit, vous vous rendez compte, le scribe atteste ce que Jésus a dit. Alors, c'est bien, mais c'est comme s'il le prenait de haut. « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. » Non, mais qu'est-ce que t'attends là? Tu dis ça, mais qu'est-ce que t'attends? Et que de l'aimer de tout ton cœur et de toute ton intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » et personne n'a plus posé de questions. Moi, je trouve étonnant quand même la grâce du Seigneur de voir qu'il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu es encore assez éloigné. Moi. Parce que moi, je t'ai dit, voici. Et tu dois considérer ceci. Tu dois considérer que je suis effectivement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.